Bonjour à tous, je suis Vanessa et bienvenue sur Boost à recherche d'emploi podcast. Boost à recherche d'emploi podcast est une plateforme où l'on échange des conseils, des expériences pratiques sur la recherche d'emploi et le développement de la carrière. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial qui s'appelle Papis Camara. Papis est le CEO et le fondateur de la société Papis for Business, qui est une société de consulting qui accompagne les entreprises à développer leur potentiel et à croître leur valeur commerciale. Après 10 années passées chez L'Oréal dans le domaine de la vente, du marketing et du management, il rejoint en 2017 la société THG, qui est leader mondial de la beauté en ligne et du bien-être. Ensuite, il occupe des postes de direction au sein de Glossybox France, une marque digitale, et également au sein de la marque You Parfum à Londres. Bonjour Papis.
Bonjour Vanessa.
Comment vas-tu?
Je vais très bien, merci beaucoup. Et toi?
Ouais, ça va super. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast.
Merci pour l'invitation, je suis très honorée.
Alors, Papis, pour commencer, comment te définis-tu? Pourrais-tu te présenter à nos auditeurs?
Alors, je suis Papis Camara, je suis sénégalais d'origine, je suis né au Sénégal il y a 38 ans, donc ça date. J'ai vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, je suis parti en Côte d'Ivoire pendant 6 ans où j'ai effectué une école militaire. Après, je suis revenu au Sénégal pendant 2 ans et demi où j'ai appris, où j'ai accéléré sur l'anglais et après j'ai fait une année de droit. Après, je suis arrivé en France en 2003, où j'ai rejoint une école de commerce à Blois dans la région centre, très belle ville d'ailleurs. Et après presque 4 ans d'école de commerce, j'ai rejoint L'Oréal, comme tu viens de le dire. Donc, j'ai passé 10 très belles années chez L'Oréal. J'ai occupé des postes dans le marketing, dans la vente, dans le management, comme tu l'as si bien dit. Et d'ailleurs, je suis au Royaume-Uni depuis 7 ans et demi, parce que c'est à l'époque L'Oréal qui m'avait envoyé au Royaume-Uni dans une promotion pour m'occuper de la marque de Lancôme sur tous les aéroports, ce qu'on appelle les duty free. Et ça fait 3 ans et demi que j'ai quitté L'Oréal. Et depuis 3 ans et demi, je suis dans des startups anglaises britanniques, donc des startups britanniques en online et digital. Sachant que le UK, comme je dis, c'est vraiment les leaders en Europe sur tout ce qui est vente en ligne. Il y a des sites tels que Look Fantastic, Feel Unique, Boohoo, Misguided, ASOS. Donc depuis 3 ans et demi, j'ai vraiment fait ce shift en passant de corporate à startup et surtout dans la partie digital online. Ce qui me fait assez marrer parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de digital online.
Tout à fait.
Et donc, ça, j'ai vraiment eu cette chance de m'embarquer dans cette journée. Donc, voilà un parcours, on va dire, que j'ai pu résumer en moins de 2 minutes, j'espère, pour votre audience.
Non, mais très clair. Et puis, beau parcours. Félicitations.
Merci beaucoup.
Du coup, Papis, j'ai une question pour toi. En fait, il y a un chiffre qui te correspond, entre guillemets. C'est le chiffre 50 000. Pourrais-tu nous expliquer?
Alors, ce chiffre, c'était il y a presque 4 ans, jour pour jour. J'étais en septembre 2016, donc presque il y a 4 ans. Alors, j'avais fait un post justement pour parler de mon parcours et un peu des challenges que j'ai reçus quand je suis arrivé en France en 2003 sur le fait qu'on ne voulait pas me louer un appartement vu ma couleur de peau. Et je parlais aussi du fait que quand j'étais en école de commerce, les gens me disaient qu'à la sortie d'école de commerce, il va être plus difficile pour moi d'avoir un boulot que mes amis, on va dire, caucasiens. Et au fait, voilà, j'avais fait ce poste où justement je me livrais aux gens, mais en leur disant en fait, il faut toujours croire en soi. Et à la fin de ce poste, j'avais dit « Always believe in yourself because the first person to believe in you should be yourself ». Il faut toujours croire en soi parce que la première personne qui doit croire en vous doit être vous-même. Et voilà, je ne m'attendais pas à ça. Et ce poste, effectivement, a eu presque 50 000 likes, presque 1 million de vues, a été partagé des milliers de fois. Et depuis, j'ai été contacté de partout, j'ai enchaîné des interviews et après, des gens aussi m'ont dit que ce type d'inspiration leur apportait beaucoup dans leur vie au fait de tous les jours. Donc du coup, depuis, je me suis mis à écrire surtout sur LinkedIn où je partage des expériences du vécu. Et l'idée derrière, c'est vraiment de motiver les gens, de leur dire de croire en soi et toujours se surpasser. Voilà.
Impressionnant, tout à fait. Et j'en profite pour dire que c'est également grâce à ce poste-là que moi, je vous ai découvert. Et également vos posts sur la motivation sur LinkedIn, donc super. Très bien. Papis, quand on regarde ta carrière, je vais te tutoyer. on remarque que tu as majoritairement travaillé dans le domaine de la beauté. Pour quelles raisons? Quel est ton rapport avec la beauté?
Alors, c'est un rapport assez spécial parce qu'avant de venir ici, d'ailleurs, je rappelle à notre audience qu'on est dans un studio à Paris 17e. Même si je vis au Royaume-Uni depuis 7 ans et demi. avant de venir ici, j'étais avec ma sœur. Et il se trouve que ma sœur a un salon de beauté à Paris Wagram. Et depuis 15 ans, elle a son propre projet de beauté, on va dire. Et j'ai grandi, en fait, avec trois grandes sœurs. Donc, je suis le dernier de la famille et j'ai été toujours proche de mes sœurs. Je dis souvent que mes sœurs sont mes meilleures amies. Et je me rappelle en 2000, quand je rentre de la Côte d'Ivoire, je viens de faire 6 ans de l'école militaire, donc en environnement très masculin, on va dire, sans être cliché. Et au fait, je me rappelle en 2000 déjà, mes sœurs essayaient leur gommage, leur masque sur mon visage. Au début, j'étais très réticent et après, j'en ai pris goût. Et donc, je pense que inconsciemment, ça vient de là. Mais après, j'ai fait une école de commerce en France et en France, il s'avère que L'Oréal est réputé d'être une école marketing. L'Oréal fait partie des boîtes qui font beaucoup rêver quand on est en école de commerce, telles que LVMH, telles que Danone, telles que Hermès, telles que Chanel. Donc, je pense aussi les deux combinés, le fait que naturellement, j'avais un pied déjà dans la boîte avec mes sœurs et le fait que quand j'étais en école de commerce, une de mes matières préférées, c'était le marketing et que L'Oréal étant la référence française, if not mondiale en termes de marketing, les deux ont fait que j'ai vraiment voulu joindre L'Oréal. Et ça fait 13 ans et demi, effectivement, que je suis dans la beauté. J'ai beaucoup appris, je suis très passionné de la beauté.
D'accord, très clair. Et penses-tu qu'étant homme, cela a favorisé ta carrière dans le domaine de la beauté?
Je ne pense pas du tout. Je pense que pour être objectif, étant homme, ça fait une légère différence. Parce que, par exemple, L'Oréal, de mémoire, 66% à 70% de leur effectif est féminin. Et d'ailleurs, je leur tire chapeau parce que je pense que 50% du management est aussi féminin. Ce qui est très bien, je pense que beaucoup d'entreprises devaient s'en inspirer. Mais je ne veux pas dire que ça a favorisé, parce que l'on soit homme ou femme, on peut réussir dans la beauté, au fait, c'est dans tous les métiers, il faut juste croire en soi. Après, je suis parti aussi avec des challenges, parce que je disais à mes équipes, naturellement, elles connaissent mieux le make-up, par exemple, que moi, parce que naturellement, elles en portent et autres. Donc moi, en fait, j'ai appris tout cela. Nous, les hommes, on met beaucoup moins de produits de beauté que les femmes en général. Donc, si on arrive dans le métier de la beauté, on a des choses qui sont moins naturelles en nous. Donc, forcément, j'ai dû apprendre, j'ai dû me renseigner. Je suis ce qu'on appelle un eternal learner. Ça veut dire qu'il y a une chaîne qui s'appelle QVC au UK et je la regarde tous les 2-3 jours parce que je ne voulais pas, comme excuse, ah, je suis un mec, donc je ne me connais pas en make-up ou en eyeliner ou en lipstick. This is just excuse, tu vois. Moi, au fait, je voulais vraiment être crédible dans tout ce que je fais. Donc, effectivement, je me suis tapé pas mal d'émissions de beauté, pas mal de step-by-step vidéos, whatsoever. Et en général, ce que j'adore, c'est quand je vais dans les villes. Bon, là, il y en a, c'est moins le cas avec le coronavirus, mais en général, j'aime bien aller dans les magasins, tout ce qui est Sephora, Selfridges, Harrods. Je suis vraiment sur le terrain et j'aime bien voir toutes les trends. Donc voilà, pour revenir sur ta question, je ne pense pas que ça a favorisé. Mais après, comme dans tout métier, faut se donner à fond. Et pour avoir le résultat souhaité.
Tout à fait. Papis, tu as eu une belle carrière chez L'Oréal. Tu as contribué au développement de plusieurs marques aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Afrique. Tu as contribué à développer les ventes de ces marques-là. Et tu as même reçu en 2015 le trophée de la meilleure marque avec Lancôme. Donc en fait, tu étais au top de ta carrière, mais tu décides de partir. Pourquoi ? C'est assez surprenant.
C'est assez surprenant, c'est vrai. J'ai fait 10 très belles années chez L'Oréal. C'est vraiment une seconde famille pour moi. J'ai beaucoup d'amis chez L'Oréal jusqu'à encore aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de partir ? En fait, je dis souvent que le choix d'une carrière, c'est un peu comme le choix d'un club de foot. Si je veux faire le lien avec le football, je sais que c'est un peu terre à terre, mais je m'en excuse, j'adore le foot. Et en fait, il faut bien choisir en fait, son next step. J'ai eu la chance, je dis que c'est une chance, parce que L'Oréal a 4 divisions, ce que les gens ne savent pas. L'Oréal, aujourd'hui, c'est un groupe leader mondial de loin de la beauté. Et ceci grâce au fait qu'ils ont un portefeuille de plus de 32 marques, si ma mémoire est bonne. Donc, ils ont des marques qui sont vendues en grand public, ce qui est supermarché en France, c'est l'équivalent de Carrefour, Auchan et autres. Ils ont des marques vendues en distribution sélective, où on appelle le circuit luxe, donc tout ce qui est Sephora, Marion et autres. Distribution coiffure, donc tout ce qui est marques telles que, par exemple, Kérastase, L'Oréal Professionnel Redken. Et la partie pharmacie, ils appellent cela cosmétique active, donc des marques telles que Vichy ou Roche-Posay qui sont vendues en pharmacie ou parapharmacie. Et moi, pendant 10 ans chez L'Oréal, j'ai eu la chance d'avoir fait 3 de ces 4 divisions. Et je me suis toujours dit dans ma tête, un jour, je voulais me porter comme un consultant et j'aimerais être vu comme un expert de la beauté. Et pour cela, il faut que je sois crédible. Et pour être crédible, il faut que je passe partout où la beauté est vendue. Et il y avait un créneau qui me manquait, un canal de distribution qui me manquait, c'était le online. Donc, il y a 3 ans et demi, j'avais décidé de partir faire du pur online avec ce qu'on appelle les online pure players. C'est-à-dire que L'Oréal fait du online, mais à la base, ce n'est pas leur métier. Alors qu'un groupe tel que THG ou The Hut Group, qui est, comme vous l'avez dit, qui est l'un des leaders mondiaux de la vente en ligne, eux, c'est vraiment leur corps de métier. Et donc, du coup, je me suis dit, si je veux vraiment apprendre la beauté en ligne, il faut que j'aille chez les experts de la beauté en ligne. C'est un choix très, très difficile parce que j'avais des comptes off, comme on dit, pour rester chez L'Oréal. J'avais cet amour de ce groupe. Mais il a fallu que j'aille au-delà d'une passion de nos groupes pour penser très tôt stratégique. Et je ne le regrette pas aujourd'hui, 3 ans et demi plus tard, grâce à toutes les choses que j'ai apprises en termes de online, digital, social media, e-commerce, and so on, and so on.
Très clair. Tu as commencé à y répondre, mais je vais quand même te reposer la question. Effectivement, tu as changé d'entreprise, tu as occupé plusieurs postes, que ce soit dans des entreprises dites corporate ou également dans des startups. Comment es-tu arrivé à identifier que pour toi, il était temps de passer à autre chose ? Pour toi, comment arrivais-tu à te dire, là maintenant, c'est le next step, je dois bouger ?
Alors, s'il n'y a pas une réponse exacte à cela, en fait, précise, je vais essayer de donner plusieurs réponses. Par exemple, chez L'Oréal, je fais 10 ans, dont 6 jobs différents. Et la plupart du temps, c'était des 6 promotions. J'étais promu, comme on dit. Donc ça, c'est une chance aussi. Mais la chance, ça se crée, bien entendu. Souvent, on crée une nouvelle structure et on monte une équipe, comme à l'époque, en 2010, pour s'occuper de la marque Sochin Carson Dark & Lovely sur le continent africain, sur les US et l'Europe. Et dans cette structure marketing, ils cherchaient quelqu'un avec un background du circuit coiffure. Et ils ont pensé à moi. Donc voilà, il y a aussi souvent le bon moment, on va dire, comme quand je suis promu pour aller m'occuper de Lancôme au Travel Retail au UK, qui est, by the way, le plus gros marché duty free en Europe. Et Lancôme, qui est la plus grosse marque luxe de L'Oréal. Il se trouve que la dame qui s'occupait de cette marque à Londres venait de quitter L'Oréal. Et donc, du coup, une des filles qui était déjà chez Lancôme a pris son poste. Et donc, l'autre poste s'est libéré. Donc voilà. Et souvent, c'est... on va dire la chance, le hasard, le fait de rencontrer les bonnes personnes, tout cela joue. Mais après, moi, je suis très stratégique. Quand je décide d'aller chez Lancôme, je veux passer du marketing au business. Parce que ça, c'est un poste business où je gère une équipe de plus de 25 personnes, où je m'occupe de la relation avec les retailers, and so on, and so on. Quand je finis Lancôme, je suis promu pour m'occuper des plus grands comptes de L'Oréal au UK, les coiffeurs de stars, de célébrités qui sont chez Harrod, Selfridges et tout. Pareil, je parle à des ressources humaines qui voient cela comme un next step. Donc voilà, c'est souvent soit parce qu'on m'en parle, mais aussi moi, il faut que je vois ce qui est stratégique pour moi. Et après, la chance, quand j'ai fini Glossybox, quand j'étais DG France de Glossybox, pour passer de Glossybox à You Parfum, qui est ma toute dernière expérience professionnelle avant de lancer ma boîte, il se trouve qu'il y avait 2 investisseurs qui investissaient dans une joint venture, qui cherchaient quelqu'un basé à Manchester avec une expérience cosmétique, une expérience fragrance, une expérience subscription. Je venais de Glossbox Subscription. Donc du coup, en fait, ça a tiqué tous les box. C'est une chance, c'est une coïncidence, j'en sais rien, mais j'avais l'impression que le job description, c'était vraiment moi, en fait, tout mon parcours. Donc voilà, c'est vraiment aussi un tout, au lieu de dire c'est juste grâce à ça.
D'accord. Donc en fait, si tu devais résumer, quels sont du coup les critères qui guident tes choix professionnels ? Parce qu'on comprend que effectivement il y a des opportunités, mais qu'également quelque part tu avais une stratégie et aussi. Donc si tu pouvais résumer, quels sont les critères qui te guident ?
C'est une belle question, Vanessa. En fait, je me souviens toujours, j'avais écouté un motivation audio, Jim Rohn. Qui est plus de ce monde, mais qui pour moi est l'un des meilleurs motivational speakers ever lived. Il a dit, when you go to a new job, the most important thing to ask is not what I am getting there, but what I'm becoming there. La chose la plus importante à demander, c'est pas ce que je vais recevoir, parce que les gens pensent toujours salaire, mais la personne que je vais devenir grâce à ce boulot. Parce que si vous devenez quelqu'un grâce à ce boulot, le salaire suivra, en fait. Parce que le milieu du travail va rémunérer vos compétences et vos différences. Et les compétences et les différences se construisent au fur et à mesure d'une carrière. Donc voilà. Donc moi, c'est vraiment ce poste qu'il va m'apporter en plus. sur ce que je veux devenir dans 10 ans à peu près. C'est moi, qu'est-ce que je peux apporter à ce poste? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, ils pensent juste à ce que le poste peut leur apporter, mais l'inverse, qu'est-ce que je peux apporter à ce poste? Si c'est un poste où je n'ai pas d'added value, de valeur ajoutée, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'aime pas faire des choses in the box. J'aime bien think out of the box. J'aime bien apporter de la valeur ajoutée. Donc, pareil, si au niveau de ma situation personnelle, si cela le permet, quand je suis promu pour aller au Royaume-Uni il y a 7 ans et demi, voilà, je peux me permettre parce que je n'ai pas forcément d'attache personnelle en France, en dehors de ma soeur, ma nièce. C'est déjà une grosse attache personnelle, mais je veux dire, derrière, je ne suis pas en couple, je n'ai pas d'enfants, ça me facilite. Je n'ai pas dit que c'est impossible quand on est en couple, on a des enfants, mais ça facilite pour être réaliste, pour bouger au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est un pays difficile, auquel il est difficile de dire non en termes de business, parce que voilà, c'est un pays mature en business, l'un des pays les plus matures au monde. Donc, je sais qu'en allant au Royaume-Uni, je vais prendre une autre dimension. Et derrière aussi, ça va rajouter à ma carrière, pardon, à mon profil international que je veux cultiver. J'ai vécu dans 5 pays déjà, Sénégal, Côte d'Ivoire, France, UK, Finlande pour un semestre étudiant. Et donc voilà, c'est pour moi, c'est une continuité pour construire ce profil international. Donc c'est vraiment beaucoup de choses qui font que je choisis un job ou pas. Et bien entendu aussi le package, je ne parle pas du salaire, je parle du package. Parce que souvent les gens se concentrent sur un salaire. Mais je conseille aux gens, pensez pas salaire, pensez package. Je donne un exemple, si votre salaire est 10, je dis n'importe quoi, et que derrière, il n'y a pas la voiture ou l'assurance maladie, ainsi de suite. Ben peut-être qu'il y a une personne qui va toucher 8, mais derrière, elle a tous ces autres avantages. Du coup, quand on fait la différence, cette personne gagne plus que vous. Donc voilà, il faut penser à tout, en fait.
Tout à fait, ça se contrebalance. Donc, ma prochaine question, Papy, c'est de savoir... À chacune de tes nouvelles étapes professionnelles, comment du coup t'es-tu préparé? Quels sont les atouts que tu as mis en avant à chaque fois pour pouvoir obtenir ces jobs? Et tout à l'heure, on parlait du salaire. Tu sais, ça reste quand même une question super importante. Comment arrives-tu à chaque fois à négocier ton salaire et négocier en fait une promotion?
Alors... Moi, je dis souvent que j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui m'ont aidé, au fait. Et je ne crois pas au fait qu'on arrive quelque part sans l'aide de personne. Déjà, j'ai l'aide divine parce que je dois ma vie en Dieu. Et donc, j'ai déjà cette aide divine, mais surtout, je rencontre des gens qui, dans mon parcours, m'ont aidé. Et je me souviens, c'était en 2009 ou en 2010. Donc, ça date. Et, j'avais 27-28 ans et je me souviens, il y avait un grand patron chez L'Oréal. Il se trouve que c'était comme un mentor pour moi. On se rencontrait 3-4 fois par an. Et une fois, on avait déjeuné dans le restaurant à L'Oréal, à rue Royale, Paris 8e. Et il m'avait dit, ne fais pas comme la plupart des gens de ton âge qui, lorsqu'ils arrivent sur un poste, pensent tout de suite au next step. Il m'a dit cette phrase que je ne vais jamais oublier. Il m'a dit, quand tu as un poste, Papis, fais tout pour le cartonner. Concentre-toi sur ce job. Donne le maximum. Parce qu'un groupe tel que L'Oréal, les opportunités viendront tout le temps naturellement. Et donc, du coup, quand je suis sur un poste, je pense pareil. Moi, j'ai fait une école militaire où, pour rentrer, il faut un concours en classe de CM2. Il se trouve qu'il y a 2000 personnes qui passent au concours au Sénégal et il n'y a que 3% qui sont retenus chaque année. Donc, déjà, moi, j'ai grandi avec cette culture d'excellence où quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Donc, quand je vais sur un job, je veux vraiment apporter une valeur ajoutée. Et je dis cela aux gens qui nous écoutent, surtout aux plus jeunes. Ça veut dire que quand vous arrivez sur un boulot, il faut faire une différence. Moi, il m'est arrivé de bosser plus que les autres, de sacrifier des week-ends, des sorties. Ça, c'est un choix personnel. Je ne dis pas à tout le monde de le faire. Mais en tout cas, on n'a rien sans rien. Il faut arrêter de penser qu'on va faire les minimums et derrière les promotions aussi. Non, les gens qui sont promus, c'est des gens qui bossent beaucoup. Après, dans certaines boîtes, il y a beaucoup de politiques et autres. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que j'ai toujours été contre. Et moi, je suis très... brut de coffrage, je dis les choses telles qu'elles sont. Donc, je ne vais pas parler de ça parce que c'est même des choses qui m'exacerbent. Mais je pense plutôt, je préfère parler de hard work, en fait. Vraiment, travailler dur et faire une différence. Et pour revenir sur le salaire, bien entendu, il faut négocier un salaire. Et d'ailleurs, tous les gens qui nous écoutent, il faut négocier un salaire. Et d'ailleurs, les ressources humaines ou les managers adorent quand vous négociez un salaire. Parce que je me souviens toujours, un de mes DG en 2010 m'avait dit, si tu négocies pas bien ton salaire, comment comptes-tu demain négocier des contrats pour moi avec des clients? Et je me souviens toujours de cette phrase. Donc, du coup, le salaire, comment on le négocie avant d'aller en entretien? Il faut se renseigner. Il faut demander, il faut faire un network assez sain dans une entreprise. Vous connaissez beaucoup de gens, des gens qui ont occupé ce rôle avant ou vous connaissez des managers de telle personne. Vous renseignez sur les cris de salaire, il y a un marché. Dans une ville ou dans un pays pareil, il y a un marché, au fait. Il faut se renseigner et par rapport à l'increase qui se fait, vous pourrez négocier. Mais voilà, il faut toujours vraiment négocier. Et après, j'ai la réputation d'être assez tough in negotiation, d'être très dur en négo. Donc oui, j'ai pu bien négocier mes salaires en général.
Ok, ça marche, très clair. Papis, quand on t'entend, ça a l'air tellement facile. Tu as eu pas mal de succès. C'est vrai que là, tu parles de la valeur du travail, du hard work. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'à un moment de ta carrière, tu as connu un échec? Et si oui, qu'est-ce que tu en as retenu? Quelles sont les leçons que tu as apprises? Et comment t'en es-tu sorti?
Alors oui, des échecs, il y en a eu tout le temps. Et d'ailleurs, les gens, ils voient justement le succès plus que les échecs. Et je peux vous dire que, quand je dis vous, pas toi, Vanessa, parce qu'on se tutoie, mais l'audience, les gens qui m'écoutent, j'ai eu plus d'échecs dans ma vie, au fait, que de réussites. J'ai eu plus de portes fermées. Mais justement, moi, en fait, toutes ces portes fermées m'ont donné envie d'aller plus loin. Et en échec, je peux donner un exemple plus récent, on va dire. Il y a à peu près 18 mois, la startup YouParfum que j'ai créée de A à Z et lancée, qui est une plateforme e-commerce avec sa propre marque de parfum, ben, on devait la lancer il y a plus d'un an, en fait. Plus d'un an, il y a eu des retards. Après, on devait la lancer en novembre 2019. Il se trouve que quand on finit le site internet, quand on fait du testing, du A-B testing, du user testing, ben, le résultat du user testing, il est négatif, en fait. Alors qu'on est en septembre et on est sur le point de le lancer en novembre, on se rend compte que les users, les utilisateurs, je pense, oui, en français, ils n'aiment pas le site pour telle ou telle raison, parce que c'est trop compliqué, c'est confus, le online experience is not a great one, blablabla. Et donc, du coup, on se retrouve face à un mur et moi, je prends la décision de prendre du retard sur le projet et de dire à mes deux investisseurs qui pourtant me poussaient à lancer en disant: non, on ne va pas lancer parce que si on lance, c'est trop risqué. Et je prends un retard de 6 mois, qui n'est pas rien, pour refaire le site, pour refaire un autre user testing, et qui fait que le site qui est lancé que finalement au mois de mai est là, qui va être lancé là, dans quelques semaines à cause du COVID. Mais le résultat, il n'a rien à voir avec le premier résultat. Donc en novembre, ça aurait pu être vu comme un échec. Mais moi, je ne retiens pas le mot échec, au fait. Je vais aller plus loin. J'ai échoué sur le fait que je n'ai pas lancé en timing, mais derrière, c'est 6 mois, j'en profite pour lancer quelque chose de top ici, ce qui est le cas.
Très bien. J'aimerais aussi qu'on parle du coup de ta nouvelle expérience, hein, en tant qu'entrepreneur avec Papis for Business. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment t'en es arrivé là?
Alors, c'est une idée qui m'est venue il y a un an. Depuis un an, je voulais me lancer à mon propre compte. Et j'ai beaucoup hésité. Par contre, l'idée en moi, elle y est depuis toujours. Et je me souviens même quand j'arrive en entretien en avril 2007 avec une des RH monde de L'Oréal, la division coiffure. C'était mon deuxième ou troisième entretien avant de rentrer chez L'Oréal. Elle m'avait dit, Sylvie d'Angelserre, si elle m'écoute, ou si elle nous écoute, elle m'avait dit... je ne comprends pas pourquoi vous voulez rentrer chez L'Oréal, pourquoi vous ne créez pas votre propre boîte. Et sa question, je l'ai trouvée tellement pertinente, je me suis dit, elle, c'est une vraie RH, pour le coup. Parce que dans RH, il y a ressources humaines et le mot humain, elle sait lire les gens. Et je lui avais répondu, un, je n'ai pas envie maintenant, deux, je ne suis pas encore prêt. Donc, j'avais toujours cette fibre, on va dire, entrepreneuriale et je savais qu'un jour, j'allais me lancer, mais je voulais me lancer quand je serais vraiment armé, quand j'aurais les épaules assez larges. Et voilà, donc, au fait, il y a un an, j'ai failli, j'ai dit, avant de lancer, il faut que je finisse YouParfum, que je finisse ce projet. Et donc, du coup, j'ai fini le projet. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai été chassé, ce qu'on appelle headhunted, pour m'occuper du digital, du e-commerce d'un grand groupe basé en Arabie Saoudite pour tous les pays du Golfe. Ils sont dans plus de 6 pays et c'était un poste qui était payé presque 3 fois de ce que je gagnais déjà au Royaume-Uni. Que j'ai décliné mi-avril en pleine crise. Donc, les gens qui m'écoutent, pendant qu'il n'y avait pas de boulot, parce qu'effectivement, il y avait plein de boulot, avec des avantages exceptionnels et j'ai tout décliné pour me lancer dans ma propre boîte parce que je me suis dit, si tu ne le fais pas maintenant, ce ne sera jamais en fait. Donc, non. Ça paraissait un risque parce que j'ai dit non à beaucoup de choses, on va dire, matérielles aussi, un job, c'est assez important. Mais parce que pour vivre ma passion, je sentais que c'était le bon moment. Et donc, c'est pour cela que j'ai créé Papis for Business. Je travaille depuis juin 2020 et là, on va lancer le business en septembre 2020. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises sur, on va dire, quatre fonctions principales. Online digital, ce qui peut se comprendre avec mon parcours ces trois dernières années. On va soit les accompagner à créer un site internet ou à refaire le site internet parce qu'un site internet, c'est vraiment une des premières vitrines de nos jours pour une société. Donc, c'est important quand on arrive sur ce qu'on appelle sur le landing page, à quoi ça ressemble, le online experience, le online journey, tout cela. Après, l'autre partie ou l'autre focus de mon business, c'est tout ce qui est mentoring, coaching, et c'est des choses que je fais sur mon propre temps depuis des années.
Je confirme.
Voilà, on s'est connus de cette façon et du coup, je me suis dit pourquoi pas le rendre professionnel. L'autre partie, c'est la partie stratégie. Imaginez une entreprise basée en France ou au UK et qui va aller s'installer au Cameroun, ton pays d'origine, ou au Sénégal. Et du coup, on va leur faire une stratégie d'accès au marché, on va les accompagner. Et la dernière partie, ben, c'est marketing, c'est mon parcours chez L'Oréal. Créer une marque d'A à Z, créer des produits, lancer une marque sur un marché, ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas plus pour business, on est là pour accompagner les entreprises, qu'elles soient start-up, parce que j'ai fait des start-up depuis 3 ans et demi, ou corporate, parce que je viens aussi du milieu corporate. Et on va les accompagner dans ces quatre fonctions qui sont online digital, coaching, mentoring, stratégie et marketing.
Très intéressant. Et ceci dans tous les domaines, c'est ça?
Oui, nous, c'est une très belle question, Vanessa, parce que j'en avais parlé à une femme anglaise que je coach depuis 2 ans, qui a une application de beauté. Et elle pensait que mon business allait targeter que les entreprises de beauté. Et je lui ai dit non, parce que quand on a réussi dans un univers, on peut transférer les skills, comme on dit, sur d'autres. Donc non, je ne vise pas que les entreprises de beauté, qu'elles soient entreprises de fashion. Là, j'ai rencontré un client qui est basé à Tours, qui fait des cuisines professionnelles, qui équipe des restaurateurs connus, qui équipe des hôtels et autres. Là, je parlais à une cliente qui est basée à Agadir au Maroc, qui est un designer, donc qui veut lancer sa propre e-commerce plateforme pour vendre sa propre création. Voilà, j'ai aussi des entreprises naturellement dans la beauté, des grands groupes, des startups. Donc voilà, c'est vraiment du tout en fait.
Très bien, je te souhaite beaucoup de succès en tout cas avec cette nouvelle entreprise.
Merci beaucoup.
Tout à l'heure, tu as parlé du Covid-19 et donc c'est une excellente transition et également pour clôturer notre échange. Je voudrais savoir, selon toi, avec cette crise inédite qu'on traverse actuellement, pour toi, quel est le mindset, quelles sont les habitudes et les compétences qu'il va falloir développer pour continuer à à évoluer dans sa carrière et avoir un profil attractif?
C'est une très belle question parce que j'ai parlé de ce sujet à une de mes mentors, qui est ma mentor depuis 15 ans, au tout début du Covid. Et je pense qu'il n'y a pas une réponse parfaite, mais je pense qu'il faut être ce qu'on appelle agile. Je ne sais pas comment le traduire en français, mais en tout cas...
Agile.
Agile, voilà. Parce qu'il y a des gens... Pourquoi je dis agile? Je m'explique. Il y a des industries qui sont impactées et qui le seront pendant au moins 2-3 ans. Par exemple, le travel retail, l'industrie du voyage. J'ai fait 3 ans et demi dans tout ce qui est duty free. Malheureusement, et ça c'est... data-driven, c'est basé sur les études qui remontent depuis 3 mois, on prédit que 5 à 10% maximum de passengers d'ici la fin d'année. Et tous les grands CEO de ces, des compagnies aériennes, que ce soit, qu'elles soient américaines, britanniques ou françaises, elles nous disent que le travel retail ne redémarrera pas à son niveau de 2019 avant 2023. Donc ça veut dire que quand le travel retail est impacté, ça veut dire que tout ce qui est autour, les restaurants, les hôtels. Parce que notre côte, Vanessa, imagine, là, tu es à Paris, tu veux faire un voyage à New York, d'accord, ou à Stockholm. Tu vas prendre un Uber. Donc, le Uber, il va être impacté. Une fois que tu arrives au duty free, tu vas acheter des produits, soit des produits de beauté, ou tu vas même acheter la restauration. Ils vont être impactés. Après, le billet d'avion, tu vois, donc ils sont impactés. Après, quand tu atterris, tu vas prendre un Uber, tu vas faire le sens inverse, tu vas sûrement aller à l'hôtel, les hôtels vont être impactés. Donc, en fait, il y a tous ces milieux-là qui vont être durement impactés. Et pour quand je dis agile, ça veut dire que si on a l'habitude de bosser dans cet environnement pendant 5, 10 ou toute notre vie, ben, faudra se réinventer. Faudra vraiment se réinventer et parce que le monde, il a changé. Et dans réinventer, le digital en fait partie. Aujourd'hui, tout est digital. Ça a accéléré. Et je dis, les gens qui sont dans le métier du digital, ils doivent sourire. Et c'est pas pour rien qu'Amazon, aujourd'hui, c'est l'une des entreprises les plus performantes au monde, sinon la plus performante au monde, parce que le COVID a été une pub naturelle pour le online digital. C'est-à-dire qu'avant, des gens qui hésitaient à choper online, aujourd'hui, ils n'hésitent même pas. En fait, ils sont naturellement convaincus. Donc, voilà, se réinventer, ça fait partie de la digitalisation, comme on dit. En anglais, il y a un mot qui s'appelle « resilient ».
Ah, oui.
Resilient, resiliency, en français, je ne sais pas. Résilience, peut-être
être, oui, la résilience, hein, d'être, ne pas abandonner, vraiment s'accrocher.
Exact. Du coup, pareil, il faudra être résilient parce que devant nous, ça va être tough, en fait. Et je le dis aux gens, les gens ne se rendent pas compte. Devant nous, on vit sûrement l'une des pires crises depuis, je ne sais pas, plus d'un siècle, j'en sais rien. Et les gens qui essaient de nier cela, ils nient la vérité, en fait. Donc, pour ça, en fait, il faut se dire les 2, 3, 4 années à venir vont être très dures. Et pour cela, il faut être vraiment, vraiment résilient.
Très clair. Je vais clôturer cet échange, Papis, en te remerciant chaleureusement pour le temps que tu m'as accordé et aussi d'avoir répondu à toutes mes questions avec autant de sincérité et de générosité. J'ai beaucoup appris. J'espère que les personnes qui nous suivront également. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode et cette fois-ci, on parlera d'entrepreneuriat.
Merci beaucoup, Vanessa. Merci pour l'invitation et au plaisir pour parler d'entrepreneuriat. Prochaine fois.
Je t'en prie. Si vous avez aimé et ou trouvé cet épisode utile et intéressant, n'hésitez pas à le liker, le partager autour de vous, vous abonner à la chaîne Boost à Recherche d'Emploi Podcast. Je serai ravie d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Et également, si vous souhaitez contacter Papy, si vous avez des questions pour lui, je mettrai dans la description de l'épisode les liens vers les plateformes sur lesquelles vous pouvez le retrouver. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés parce qu'on revient très bientôt avec un second épisode avec Papy. Bye!
Bye bye, à bientôt!
À bientôt!